L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu, la parabole du Samaritain, pour partager quelques versets bibliques avec toujours le même invité, Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour ta disponibilité, merci pour ce riche enseignement, que le Seigneur te bénisse et te rende cela au centuple.
Amen, que la gloire revienne à lui.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Jonathan, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Éternel notre Dieu, ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, le fait que nous nous sommes approchés de toi pour écouter ta parole, c'est pour nous un moyen d'être sous ton abri. Sème ta parole dans nos vies. Protège-nous pour l'éternité, pour ce temps qui nous conduit alors que nous sommes encore sur cette terre. Bénis ces instants, que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» Jonathan, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur aujourd'hui sur cette parabole ?
L'homme qui devrait en principe rester à Jérusalem avait résolu de quitter Jérusalem et de descendre. Ça, c'est une façon de résumer, parce qu'on a quand même évolué. Mais cet homme avait connu des problèmes, tout simplement parce qu'il avait pris une mauvaise décision. Dieu nous demande de rester à Jérusalem. Il ne veut pas que nous abandonnions Jérusalem pour descendre. Parce que cet homme, quand il a laissé Jérusalem en descendant, il s'est retrouvé encerclé par des brigands, l'image des démons, de Satan et de ses serviteurs, qui lorsque nous laissons Jérusalem et que nous descendons, Satan, les démons, les serviteurs se ruent contre nous et nous battent. Ils ne nous laisseront jamais comme ça. Ils vont chercher à nous détruire conformément à ce verset biblique de Jean chapitre 10 qui dit, Jean 10:10, le voleur est venu pour égorger, dérober, détruire.
Non, mais le voleur est venu pour voler, égorger et détruire.
C'est ça. C'est ça le voleur. Voler, égorger et détruire. Ça, c'est une mission terrible.
C'est ça, c'est target. Il n'y a que ces 3 objectifs-là dans nos vies.
Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Voilà. Le voleur a avec lui les démons. Même je peux mettre des faux serviteurs. Parce qu'en fait, si tu te retrouves entre les mains des faux serviteurs, il y a des gens comme ça, ils aiment des flatteurs. Hein? Ils aiment qu'on puisse le flatter comme Akab. Akab, en fait, il ne savait pas qu'en aimant les flatteries, il se dirigeait vers la fosse. Il était avec Josaphat. Et Josaphat lui dit, mais est-ce qu'on ne peut pas consulter Dieu avant d'aller à la bataille pour conquérir cette ville? Ils appellent des serviteurs. Et les serviteurs lui disent, non, va, tu vas vaincre. Va, tu vas vaincre. C'était des hommes dédiés.
Tout à fait.
Des prophètes. Mais, au fait, en coulisses, les hommes dédiés s'étaient concertés pour dire des choses qui devait paraître agréable au roi.
Pour faire plaisir au roi.
Donc le roi ne savait rien du tout de tout ça. En fait, quelque part, si le roi Akab était mort, quelque part, les hommes des dieux en étaient responsables.
Pas quelque part, c'était leur responsabilité.
Oui. En tout cas, ils ont été, moi je dirais, des instruments.
Et tu imagines combien d'hommes et de femmes politiques, économiques, des responsables dans le domaine économique, politique, militaire, dans les différents pays, se retrouvent dans le faux parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont associés pour dire des mensonges à ces hommes, pour leur faire plaisir. Et on se retrouve dans des tas de problèmes.
C'est difficile. On le retrouve dans le livre de Rois, 1 Rois chapitre 22. Ils se sont concertés, je vous en prie. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils rencontrent... Parce qu'en fait, tout homme, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, ça c'est l'apparence, c'est ce qui se voit à l'œil. Mais le cœur, il est le même. Le cœur du pauvre et le cœur du riche a besoin de la parole, a besoin du salut, a besoin qu'on lui dise... Quitte les ténèbres, viens à la lumière, prépare-toi pour le royaume des dieux. L'Église a une mission de préparer les hommes pour le royaume des dieux, de dire aux hommes de marcher avec sagesse, avec intelligence, alors qu'ils sont sur terre pour peu de temps, parce qu'il y a un temps, ils vont mourir. Il y a un temps, ils vont mourir, et après la mort, il y a une vie. Mais si ils restaient vivants et que le Seigneur revenait, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. Et l'Église prépare les chrétiens pour cette réalité. Si par exemple vous avez des frères qui sont morts, bien pendant l'enlèvement, ils vont vivre cette réalité. S'ils étaient chrétiens, ils seront enlevés car une promesse a été dite à ce sujet que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais est-ce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous les faisons vraiment? Il y a d'autres qui poussent les gens dans le mal. Donc tout ce que nous avons dit, on le retrouve dans 1 Rois chapitre 22. Où on voit des serviteurs qui sont aussi l'image des brigands. Ça, on va passer, mais on le lit quand même. Je suis au verset 20. Et non, je peux remonter.
11,
voilà. Sédécia, fils de Kénan, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens
jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth, en Galate. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi.
Lis le verset 13.
Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien.
C'est terrible. D'un commun accord.
Une association de malfaiteurs hommes de Dieu.
Et pourtant, Dieu... C'est lui qui dirige toutes choses. Il y a un verset dans la Bible où Dieu même disait à Jérémie, il dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont assisté à mon conseil? Nous devons assister au conseil des dieux. C'est-à-dire, il est dit, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Quand tu n'as pas la révélation de quelque chose,
tais-toi.
Pourquoi dire, Dieu m'a dit?
Tais-toi.
Pourquoi impressionner quelqu'un à dire, Dieu m'a dit? Dis, je suis convaincu. Ou bien je sens, moi, cette conviction. Ou bien dire, bon, moi je pense, ça c'est moi. C'est mieux. Mais si Dieu t'a dit, ok, si c'est lui qui t'a dit, c'est bon. Mais si c'est pas lui qui t'a dit...
Même Dieu s'étonne du haut du ciel. Mais
oui.
Qu'est-ce qu'il raconte ce petit?
Oui.
Moi je lui ai dit, est-ce qu'il était là quand je statuais sur ces choses ici?
A-t-il assisté à mon conseil? Et tu peux lire le verset 14.
Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira.
Très important, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira.
Un seul homme,
voilà.
Face à je ne sais pas, une association de prophètes, malfaiteurs, escrocs décidés à faire plaisir qu'au roi. Non, il n'y a qu'un seul homme qui dit, moi je dirai ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne ferai pas les choses pour faire plaisir aux hommes, pour faire plaisir au roi, pour faire plaisir au pape, au pasteur, à l'évangéliste, non. Je dirai ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit dans sa parole.
C'est vrai que certaines vérités peuvent nous mettre dans des situations telles qu'on s'est dit, là on va me tuer. Mais Jésus-Christ disait la vérité.
On hypocrite. La vérité. Il disait aux pharisiens, hypocrite.
Oui.
Jean-Baptiste disait même à Hérode, toi là, tu n'as pas le droit de prendre cette femme.
Oui. Les gens disent que non, Jean-Baptiste n'était pas sage et tout ça, mais pour Dieu, Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cet homme-là que les gens disent qui n'est pas sage, pour Jésus, il est le plus grand. C'est très important. Donc, il est important de rester à Jérusalem, parce qu'on peut tomber entre les mains des brigands. Ça, c'était une parenthèse, qui peuvent nous détruire. Les brigands peuvent être Satan, les démons, les hommes de Dieu aussi, les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, les faux serviteurs, les faux apôtres, les faux pasteurs, etc., etc. Mais, étant venu, il a versé l'huile, il a versé du vin. C'est-à-dire, lorsque nous nous retirons de Dieu, il nous donne l'esprit qui nous amène à la conviction et il nous donne le pardon lorsque nous reconnaissons nos maux et nous décidons de changer de vie. Changeons de vie. Mais ce n'est pas tout. Il nous prend, il nous met sur sa propre monture, qui est l'image de la parole. Il dit aux chrétiens, demeure en moi, ne m'abandonne pas, reste en moi, sois versé dans les Écritures, comme l'était un certain Apollos. Hein? J'aime bien ce livre, ce texte. Avant de lire l'acte, on veut lire Corinthiens, où un jour Paul s'exclamait. Les gens disaient, parlant de cet homme, hein, je suis dans 1 Corinthiens,
chapitre 1,
au chapitre 1er, on va lire le verset 12, je peux commencer au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des divisions au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Cette phrase-là, doit aussi attirer notre attention. C'est-à-dire, à Corinthe, il y avait des gens qui se glorifiaient. Non, notre pasteur, c'est Paul. Il n'est pas Apollos, oui. Nous, c'est Paul. Paul, il est Paul. Il y avait d'autres qui disaient, non, Paul, c'est vrai, nous, on ne connaît pas Paul.
Paul, quand il vous impose les mains, non, mais les démons sortent. L'autre vous dit, non, nous, Apollos, là, quand il décortique les Écritures. Non, laisse, frère, laisse.
C'est vrai qu'il y a, des divisions pareilles aussi aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui.
Ça, c'est une parenthèse, la chose qui n'est pas bonne, parce que tous ces hommes nous attirent vers le Seigneur, ils ont ce travail. Voilà pourquoi Paul a évoqué ça pour dire, mais non, c'est pas moi qui est mort pour vous, c'est pas Céphas, c'est-à-dire c'est pas Pierre, ce n'est pas Apollos, c'est Christ, parce que tous, ils travaillaient pour Christ. Mais si j'ai lu ça, c'est par rapport à Apollos. Apollos, c'était un homme qui demeurait dans la parole. Donc, on ne peut pas être un grand prédicateur sans demeurer dans la parole. Impossible. Acte chapitre 18. On est au verset 24.
J'aimerais corriger ce que tu dis. Moi, je dirais même plus. On ne peut pas être un bon chrétien sans demeurer dans la parole.
Voilà.
Parce que la Bible n'a pas été écrite pour les pasteurs. Non,
oui.
Elle a été écrite pour tout enfant de Dieu.
Oui.
On ne peut pas être un bon chrétien en bonne santé sans demeurer dans la parole.
Oui, et ce que je voulais ajouter, c'est toujours, tu as tout à fait raison, c'est aussi parce que je me suis inspiré d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il n'est plus en vie, le pasteur Vernon. Et un jour, il a donné cet exemple, il dit, mais si vous allez dans un hôpital et qu'on doit vous opérer, est-ce que vous allez accepter que n'importe qui vous opère?
Non. Non.
Mais comment toi, tu peux être chirurgien, hein? Tu n'es pas chirurgien, tu décides d'aller opérer. Tu vas faire des dégâts.
Tout à fait.
C'est la même chose. Si tu te dis enseignant, tu dois connaître la parole de Dieu.
Tout à fait.
Tu dois avoir une idée de cette parole, n'infusque ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse.
Tout à fait.
Mais quand tu ne connais pas ça, qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Tu vas donner la mort.
Tout à
C'est
fait.
Vrai que... En lisant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas toutes les révélations, toute la compréhension.
Mais
au moins, on a l'histoire.
Une idée générale.
Hein?
Et cas de besoin, on sait revenir sur un verset et faire des fouilles plus approfondies.
Pour ceux qui nous suivent, même ils peuvent remarquer que des fois, bon, c'est vrai, c'est difficile qu'ils puissent le remarquer, mais ça nous arrive en parlant, on dit, oh, tel verset qu'on n'avait même pas prévu, parce qu'on avait lu. Si on lit pas, on va commettre beaucoup de dégâts. Tu vas être là, tu dis Pierre, le premier fils de Jean. Alors tout le monde s'est dit Pierre, c'était le fils de Jean. C'était aussi. Donc, tu vas faire des dégâts pour rien. Entre parenthèses. Acte chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse.
Faut répéter ça.
Vas-y, tu peux lire.
Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Un homme, il savait très bien parler, ça c'est pas un problème. Il savait très bien prêcher, ça c'est pas un problème. Mais il était versé dans les Écritures. C'est-à-dire que il était plongé. Oui. On pourrait même utiliser le terme, il était baptisé.
Immergé.
Dans les Écritures. Donc pour lui, il, quand il vous parle,
il sort pas.
Il vous explique les choses en profondeur, mais il reste dans le cadre.
Très important.
Mon frère, ma sœur, vous qui êtes en train de nous écouter, c'est peut-être, bon, on ne sait pas comment le Seigneur nous a conduits là, mais c'est une parenthèse. Mm. Les Écritures doivent être notre vie de tous les jours.
Oui.
C'est vrai qu'on ne va pas tout comprendre au début, mais il faut lire, relire. Et tu sais, quand tu fais très attention de Genèse à Apocalypse, nulle part il est dit qu'il faut lire. Il est parlé de méditer.
Oui.
Méditer veut dire réfléchir sur des choses en vue de l'appliquer. Donc ça veut dire qu'au préalable, il faut avoir lu. Maintenant, tu commences à réfléchir sur ce qui a été écrit. Et tu vois maintenant comment il faut l'appliquer. Donc tu passes du temps. Tu passes du temps, des années à lire, à fouiller. Et cet homme était versé. Il était plongé. Il était immergé. Donc quand il parle, on sent que c'est quelqu'un qui a étudié ça.
C'est très important. L'éloquence, c'est l'art de convaincre. En parole, tu sais convaincre. Il y a beaucoup des hommes éloquents. Mais quand il y a des gens qui ont ces talents-là.
Voilà, ce don-là.
Ce talent-là, ça se... Bon, pour d'autres aussi, ils ont non seulement ce talent, mais ils ont même la voix de convaincre.
Voilà.
Ça, c'est vraiment une grâce. Mais ajoutons maintenant à ces choses la parole. Cherchons à être versés dans les Écritures. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup aussi, qui m'a un jour dit qu'il était dans le passé dans une église qui n'était pas une bonne église. Et après avoir lu la Bible, il a découvert beaucoup de faussetés. Alors après, il s'est dit, en tout cas, je quitte cette église, mais désormais, je vais commencer à lire à fond la Bible. Comme ça, je ne veux plus qu'on puisse me tromper.
Tout à fait.
Parce que je me suis laissé tromper pour rien.
Combien d'hommes et de femmes se laissent tromper, se laissent... C'est un peu comme Jésus a dit, ils sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles.
Quand un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse.
Dans une fosse.
Mon frère, toi qui nous suis, tu veux vraiment aller dans une fosse? Tu veux pas vérifier les Écritures comme les disciples de Bérée? Tu veux être quelqu'un qui accepte pour accepter? Non. Si tu ne demeures pas dans la parole, tu vas commencer à accepter n'importe quoi. Quand on parle de demeurer, on fait allusion à la monture. Quand Jésus-Christ, le Samaritain, avait sauvé cet homme, il l'a mis sur sa monture. Quand on est sur la monture de Jésus, qui peut nous tromper? Personne. Parce que nous demeurons en lui, nous apprenons des choses, nous découvrons des réalités cachées, et on se dit, ah bon, ça c'était faux, ça c'était pas vrai. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit.
Pourquoi? Faute de connaissance.
Sans connaissance, tu seras détruit.
Mon peuple, hein? Oui. Mes enfants, mes brebis, les chrétiens,
oui.
On va dire les vrais chrétiens, sont détruits.
Ils ne sont pas versés dans les Écritures. Faute de connaissance, comme tu voulais le dire. Faute de connaissance, ils ne sont pas versés
dans les
Écritures.
Et puis, tu sais, tu viens de me faire penser à quelque chose. Tu sais qu'il y a de ces sociétés commerciales qui dépensent des millions, peut-être même des centaines de millions de dollars, de euros, pour posséder des informations sur la population mondiale. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont les informations, ils savent cadrer, ils savent orienter la publicité ou le marketing lié à la consommation de ces personnes. Parce qu'ils savent que tel aime comme ça, donc si je veux que tel consomme, voilà les astuces que je dois appliquer pour toucher tel, pour qu'il puisse venir. Et ça, les hommes du monde nous montrent cela, ils font de grandes études. Mais nous, les chrétiens, bon, pas tous, gloire à Dieu, mais beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas que celui qui a l'information a le pouvoir.
Oui.
Celui qui a l'information a la réussite.
Oui. Et Dieu l'a démontré lorsqu'on lit dans la Bible. Ses serviteurs, lorsqu'il les envoyait, il les amenait d'abord à connaître la loi, la parole.
Et c'est pour ça que je me dis même que quand Jésus discutait avec les pharisiens, tu vois, il les ramenait toujours aux Écritures. N'avez-vous pas lu? En fait, vous connaissiez, mais vous négligez. Alors, il leur ramène à l'information qu'ils avaient. N'avez-vous pas lu? N'est-il pas écrit? Ils avaient l'information, mais ils ne savaient pas la valeur de cette information.
Et les Juifs, c'était des gens qui connaissaient la loi.
Tout à fait.
C'est pour ça que Jésus peut dire, a pu dire, que si pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Les scribes et les pharisiens, ils connaissaient la loi. Mais toi, tu es un chrétien, tu ne connais pas la parole. Dieu nous demande d'avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'était des gens qui connaissaient la loi. Et même quand ils voulaient lapider Jésus, c'était par rapport à ce qu'ils connaissaient de la loi. Ils disaient, mais comment il peut se présenter comme je suis? La Bible dit que je suis, c'est l'Éternel. Donc, ils connaissaient la loi. Il faut connaître la loi. Et les apôtres ont passé 3 ans. 3 ans après, il les a lâchés. C'est-à-dire, ils se sont séparés, mais physiquement, mais il était avec lui. Avec eux, je voulais dire. Et je vais lire ces versets. Pour envoyer Ézéchiel, Dieu lui a demandé de manger un livre. Ézéchiel chapitre 2, verset 9. Je regardais, voici, une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Je suis au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Ce verset est important. C'est-à-dire, tu dois d'abord manger le rouleau. Ensuite, tu vas aller faire quoi? Parler à la maison de l'Éternel. Sans se glorifier. Mais, si nous n'avions pas, nous, eu le temps de manger le rouleau, c'est-à-dire de lire la parole, on aurait dit quoi aujourd'hui? C'est qu'on dit, nous l'avons lu et nous le disons. Il y a des textes que nous exploitons, des passages que nous exploitons, que moi j'ai lu, que je n'avais jamais compris. Ça demandait des années. Je lisais, je relisais, et ensuite, je comprenais. C'est comme ça. Tu dois manger pour sauver les autres. Si tu ne manges pas, tu ne sauveras pas les autres. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas parole. Car la Bible dit que le précepte est une lampe. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour dire quoi? Si nous avons la parole, nous conduisons les aveugles à marcher. Voilà le verset 3. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. C'est ça la parole. Quand on partage comme ça, c'est doux comme du miel. C'est bien. Mais regardez l'Apocalypse avec Jean. Jean a été devant la même réalité. Avant de l'envoyer, il lui dit de manger. Mange le rouleau. Apocalypse 10, le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera, faut toujours avaler le livre.
Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel.
Très important. Lorsque nous avalons, il est amer, mais dans la bouche, il est doux comme du miel. Dans la bouche d'Ézéchiel, c'était tout aussi doux comme le miel. Parce que quand on partage la parole, ça fait du bien. Mais quand on choisit de vivre la parole, ça nous attire des amertumes. C'est ça le sens de ce verset. C'est-à-dire, si on voit la vie des apôtres, c'était une vie des amertumes. Ils ont été persécutés pour la parole. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Tu vis dans une société où les gens n'aime pas Dieu, ils vont te persécuter. Mais même s'il faut pas prendre cet exemple, je vais lire un verset qui peut mieux expliquer ça. Proverbe chapitre 29, verset 27. La Bible dit, l'homme inique est en abomination juste. Oui. Et celui dont la voie est droite est en abomination méchante. C'est-à-dire, quand tu marches dans la droiture, on va pas t'aimer. Tu dois avaler le livre.
Mais cela ne doit pas nous décourager parce que l'Éternel, le bon berger, est avec nous pour nous protéger, pour nous garder, pour nous restaurer, pour combattre pour nous, oui, pour nous accompagner. Du reste, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Oui. Quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on craint point parce qu'il est avec nous. Mais après avoir avalé le livre, Dieu a demandé aussi à Jean, au verset 11, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. » C'est-à-dire, tu avais parlé, maintenant que tu as avalé le livre, maintenant il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples,
de nations,
de langues et de rois. Pour nous enseigner quoi? Ce livre-là, il peut être un livre doux comme on le dit. Ça nous attire des persécutions qui ne vont pas nous tuer parce que Dieu est avec nous.
Tout à fait.
Mais après l'avoir avalé, nous allons parler. Nous aurons de quoi dire avec assurance. Ça va toujours venir.
Mon frère, ma sœur, vous qui nous écoutez en ce moment, Dieu veut que vous soyez réconciliés avec lui au travers de Jésus-Christ. Que vous demeuriez en Jésus-Christ. Que vous persévériez avec Jésus-Christ. Que vous lisiez, que vous viviez cette parole. Mon frère, ma sœur, la Bible a été écrite pour vous. Pas seulement pour les pasteurs. Mais comment allez-vous faire pour lire ce livre quand vous n'êtes pas réconcilié avec lui? C'est l'opportunité que Dieu vous donne aujourd'hui. Soyez réconciliés avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et si c'est cela votre désir, baissez simplement la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur à Jésus-Christ pour le recevoir comme sauveur et Seigneur personnel. Je te demande pardon pour ma vie de rébellion. Je te demande pardon pour ma vie de désordre. Je te demande pardon parce que je n'ai pas marché selon les Écritures. Je te demande pardon parce que je n'ai pas demeuré dans les Écritures. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie de suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Merci pour ton pardon, ton salut. Merci pour ton message qui m'est parvenu aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain, toujours avec le même invité, Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et demeurez en Jésus, sur sa monture.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.